l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 26 septembre 2020. Germain, salut.
Bonjour Antoine.
Bon, le guide est sorti.
Enfin, il est sorti.
Le guide est sorti, alors en vente partout chez tous les bons détaillants, notamment Costco, qui vend à peu près quoi 50% des livres à chaque année.
Oui.
C'est
avec un prix attrayant, il faut le mentionner.
Oui, c'est ça. Il est toujours moins cher qu'ailleurs. Même chose pour Walmart. Évidemment, ben, tous les libraires, les pharmacies l'ont. On le voit un peu partout, c'est sûr. Et puis là, ben, c'est le moment où nous, on commence à le feuilleter, à scruter tout ça. Puis avoir le travail accompli, parce qu'on a travaillé quand même une bonne partie de l'année sur cet ouvrage-là.
Et non pas sans quelques frousses, sans quelques craintes.
Effectivement.
À un moment même, on s'est posé la question, bêtement, est-ce qu'il va y avoir un guide de l'auto 2021? Parce que à quoi bon sortir un livre si tous les magasins sont fermés, par exemple? T'sais? Donc, c'est tout ça qui parce que, on se le rappelle, il n'y a pas si longtemps, ben les magasins, ils étaient fermés. Là.
Et ça serait pas impossible que ça réarrive.
Oui. Donc,
c'est pour ça qu'Amazon est là et qu'Amazon a des augmentations de revenus significatives. Alors, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Julien Amado du Guide de l'auto, notamment d'un dossier vraiment génial que Julien a rédigé sur la Manic GT, qui est la seule voiture québécoise à avoir été produite en série. Donc, on va le recevoir en deuxième partie. En attendant, on va parler. On peut commencer tout de suite avec le Kia Sorento 2021 parce que c'est pour moi l'oublié du guide de l'auto cette année.
Malheureusement.
L'oublié en ce sens que les responsables des relations publiques de Kia n'ont pas cru bon de nous fournir l'information à temps pour un guide de l'auto qui allait sortir le jour où on dévoilait pourtant tous les détails sur ce véhicule-là.
Et tout ça est bien bête parce que ce véhicule-là était présenté en primeur mondiale à l'hiver dernier.
Ouais.
Il devait être présenté au Salon de l'auto de Genève. Bon, on sait ce qui s'est passé. À ce moment-là, c'est ça, on avait dévoilé les données techniques pour la planète. Donc, on avait été plus général. On savait pas si toutes les versions allaient être amenées en Amérique du Nord. On avait tout de même vu le véhicule. Donc, là, pourquoi ne tout simplement pas nous fournir l'information pour l'Amérique du Nord en nous demandant de respecter la date d'embargo? Ce que d'autres constructeurs ont fait, par ailleurs.
Effectivement, c'est le cas de Toyota avec le RAV4 Prime.
Oui.
Parce qu'au moment d'aller sous presse, les informations n'avaient pas encore été rendues officiellement publiques.
Et là,
on nous avait fourni l'information.
Et le Sorento, là, on est d'accord, c'est pas un rafraîchissement de mi-mandat. Là, c'est une refonte totale, une nouvelle plateforme, des nouveaux moteurs. Il n'y a plus de 6 cylindres. On a une stratégie qui est différente depuis que le Telluride est arrivé aussi, parce que le Sorento n'est plus le remorqueur de la famille Kia. Donc, tu sais, ceux qui appréciaient le Sorento pour sa capacité de remorquage, bien là, vont être déçus parce qu'elle a été baissée. Ceux qui aimaient la souplesse d'un moteur V6, ne retrouveront plus ça. Donc, on a droit à 4 cylindres atmosphériques. On a droit à un autre 4 cylindres, cette fois-ci turbo-compressé.
Qui, lui, techniquement, vient remplacer le V6
sans
offrir la douceur. Là.
Et les deux grosses nouveautés, c'est qu'on arrive avec une motorisation hybride. Donc, une motorisation hybride qui va arriver plus tard l'année prochaine. Parce que pour le marché canadien, on a eu la brillante idée quand même d'attendre que la version hybride à 4 roues motrices débarque ici. Aux États-Unis, ils vont avoir l'hybride avant nous, mais 2 roues motrices, ce qui est inintéressant
pour notre marché.
Voilà.
Mais effectivement, on est déçus de ne pas pouvoir avoir toute cette information-là dans le guide de l'auto, alors que ça aurait été possible de le faire. Alors, le message est passé aux gens de Kia Canada. Allumez, là, s'il vous plaît.
Et un mot en terminant, hybride, hybride régulier, mais hybride rechargeable aussi.
Effectivement.
Donc, avec une autonomie de presque 50 km.
Et pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Franchement, c'est prometteur. Oui, c'est ça. Donc, pour le look, on a un côté là un petit peu plus, en bon français, on dirait rugged, là, un petit côté presque costaud.
Je trouve en même temps.
Presque Honda Passport.
Mon Dieu, moi, je trouve tellement qu'il y a des airs de famille avec l'Acura MDX, l'actuelle Acura MDX.
Aussi, mais on y a une nouvelle version X-Line là, qui arrive avec des éléments noirs. Il y a l'air là, un peu plus costaud, mais c'est tout. Donc,
on vous donne l'impression de pouvoir aller sur la Lune, mais...
Mais tu vas aller à l'épicerie.
C'est ça
la réalité, voilà.
Bon, Ford qui nous parle de 5 véhicules électriques.
Oui, 5 véhicules électriques produits et assemblés au Canada. Je pense que c'est ça la nouvelle intéressante finalement. Parce que
j'ai hâte de voir ça, moi.
Oui, j'ai très hâte de voir ça, moi aussi. Parce qu'on sait que l'industrie automobile, de production automobile au Canada est peut-être pas à son moment le plus fort.
En fait, c'est pas compliqué. L'industrie automobile canadienne bat de l'aile pour une question syndicaliste.
Oui, on est d'accord.
Parce que, regardez comment ça se passe du côté de chez Honda et Toyota. Ils ont le vent dans les voiles pour leurs usines canadiennes.
Oui.
Mais à chaque fois qu'il est question de GM, Ford, Chrysler,
c'est
il y a toujours
mal,
un paquet de problèmes parce que Unifor est là pour venir défendre des travailleurs. Puis, que vous soyez ou non syndicaliste...
On a le droit de se positionner d'un côté
comme de l'autre, mais il en demeure pas moins que le constat qu'on peut tirer après des décennies de conflits qui n'arrêtent jamais, c'est que...
Et cette décision-là aboutit à la veille d'une grève potentielle. Là, donc, à chaque fois, on se rend
à
la fin du précipice. Puis
on se demande encore pourquoi GM à Boisbriand a fermé, pourquoi GM Oshawa a fermé, pourquoi on a fermé une usine de Ford à Saint-Thomas et Chrysler a encore ses usines en Ontario, mais pour combien de temps encore? Surtout qu'on fabrique actuellement des dinosaures chez Chrysler.
Oui.
On a une usine qui fabrique les Charger, Challenger, Chrysler 300. À un moment donné, il va falloir se renouveler. Là.
Absolument.
Alors, j'ai hâte de voir ce qui va advenir de ça. Mais en attendant, il y a Honda et Toyota qui fabriquent des véhicules en Ontario comme jamais. Production totale du Toyota RAV4, par exemple, qui est un véhicule à succès, pas besoin de vous le dire. La Honda Civic est faite en Ontario.
Oui, donc des véhicules importants, des véhicules à très grand volume.
Alors, cherchez pas pourquoi on s'organise pour en vendre un maximum ici.
Voilà.
Ce sont des véhicules très, 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 très lucratifs à vendre parce qu'ils sont fabriqués chez nous.
Et à la même antenne, ici, on parlait justement de rumeurs entourant le Ford Edge, notamment, qui est assemblé à Oakville, corrige-moi si je me trompe. Et la disparition du Ford Edge aurait été occasionnée par, justement, la fermeture de cette usine-là. Mais finalement, on la tient en vie artificiellement
l'usine
ou non.
Qui a fabriqué des véhicules comme la Windstar, la Freestar, qui a fabriqué jusqu'à l'an dernier le Ford Flex, pour le mentionner.
Tout à fait.
Et le très, très populaire Lincoln MKT.
Oui, qui était surtout très populaire en noir parce que c'était des services de limousine d'aéroport qui les achetaient.
Mais il en demeure pas moins que le Edge, c'est encore un véhicule à volume pour Ford. Hâte de voir ce qui va arriver avec ça.
Et syndicat ou non, j'ai pas le choix de me réjouir quand même de l'idée que des travailleurs de l'automobile continue justement de travailler ici, au Canada, de faire vivre, des villes entières, mais c'est l'approvisionnement en pièces, par exemple. Donc, il y a des répercussions énormes sur l'économie qui sont créées par ces usines-là. Là. Donc, c'est essentiel, finalement.
Mais on n'a pas, malheureusement, de détails sur ces véhicules électriques-là qui seraient fabriqués chez nous. Il n'est pas question de nouvelles Focus à 18 000 piastres électriques.
On n'a eu aucun détail.
Donc, c'est pour ça que j'en prends puis j'en laisse.
Et c'est avec un échéancier, je dirais, que je qualifierais de moyen à long terme. Là.
Donc, le prix de l'essence a le temps de tripler d'ici là.
On est d'accord.
Mais c'est une annonce que Ford a faite cette semaine. Plus proche des gens maintenant, parce que ça concerne beaucoup d'automobilistes au Québec, un problème qui est de plus en plus commun chez Volkswagen. On sait que le moteur 2 litres turbo est connu pour sa surconsommation d'huile. Et généralement, Volkswagen s'obstine pas trop et règle le problème avec ces mécaniques-là. Mais là, il y en a un second qui survient depuis plusieurs années. C'est un problème relié au turbocompresseur.
Effectivement, c'est nos collègues de l'Association pour la protection des automobilistes, donc l'APA hein, qui a sorti cette nouvelle-là. En fait, c'est un problème avec la soupape de décharge, qui est en bon français.
Le Westgate.
Voilà. Donc c'est ça. Et il y a de la corrosion prématurée qui se forme sur cette pièce-là. Donc, pas besoin de vous dire que le système de turbocompression fonctionne pas bien par la suite. Donc, ça touche quand même un grand bassin de véhicules. J'y vais rapidement. Volkswagen Jetta, New Beetle, les GTI 2009 à 2014. Donc, encore là, tu l'as dit, des véhicules avec le moteur 2 litres turbo. Toujours chez Volkswagen, on a la Golf, Jetta et GTI 2015 à aujourd'hui. Donc, des véhicules qui sont soit neufs ou légèrement d'occasion. Et chez Audi, ben, ça concerne Audi A3, A4, Q5, 2009 à 2016, avec les moteurs 2 litres aussi.
Et c'est pas uniquement les 2 litres turbo, on parle aussi des 1.4
et 1.8 ouais. Dans les modèles là, un petit peu plus récents.
Donc,
vous
avez une Golf, vous avez une All-Track, vous avez une Jetta.
Ouais, ça vous concerne.
Peu importe le moteur.
Et là, ce que l'APA nous a dit, c'est que si le véhicule était garanti, ben on procédait au remplacement, c'est correct. Mais quand le véhicule n'est plus garanti, c'est le consommateur qui doit débourser de sa poche. Ce que l'APA nous a dit aussi, c'est que il y a des consommateurs qui ont réussi à s'entendre autant avec le concessionnaire qu'avec le manufacturier pour partager là les coûts liés à cette réparation là. Donc avant de sortir plusieurs milliers de dollars de votre poche droite, ostinez-vous
allez voir votre concessionnaire si jamais il n'y aurait pas quelque chose à faire.
Ouais, voilà,
effectivement. Voilà. Ok, un autre produit Volkswagen qui a été dévoilé cette semaine, et ça, c'est attendu. Bon, moi, j'ai été déçu d'apprendre que le ID4, qui va être le prochain pseudo VUS électrique du constructeur, ne sera pas un véhicule entre guillemets abordable.
Non,
on va aller rivaliser avec des Tesla Model Y.
Tout à fait. Donc, et non seulement on va aller rivaliser avec eux, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E et Volkswagen ID4, mêlés de côté, là, puis mêlés tous de la même couleur, ça se ressemble.
Variation
pas
sur un même thème.
Là, on est d'accord. Ouais. Et non, on n'arrive pas avec un véhicule entre guillemets abordable. Et c'est dommage quand même parce que en Europe, on a la Volkswagen ID3, qui est plutôt du format de la Golf.
Ouais.
Mais on sait que les acheteurs de voitures de format compact sont moins au rendez-vous qu'auparavant.
En Europe, il y a quand même plus de profit à faire en vendant une voiture comme celle-là qu'ici, parce que la donnée mentalité des Américains, c'est plus c'est gros, plus ça vaut cher. Alors, tout ce qui s'appelle petite voiture, c'est impossible de vendre ça à un prix relativement élevé.
Et c'est ça. Donc, Volkswagen nous a confirmé que ce véhicule-là allait arriver à l'été 2021 et que on a eu assez peu de détails techniques. Pour le moment, on doit se contenter là de l'autonomie qui était confirmée pour le marché européen, c'est-à-dire 400 km là environ. C'est comme les concurrents finalement, mais on n'a pas
400 km aux normes européennes, ça veut dire à peu près 300 ici.
Ouais, on va être un peu plus bas. Puis sinon, effectivement, on a vu des photos de l'intérieur. C'est très, très, très épuré.
Ouais.
C'est très, très, très technologique. Donc, c'est la branche
Ça nous change de notre Passat actuel, en tout cas.
On est d'accord.
On est loin de là. Mais Volkswagen veut passer par l'électrification.
Ben oui.
Évidemment, on sait que
on
la
s'est rendu
Golf,
compte hein, que c'était pas le
pas
diesel
la
l'avenir. Hein?
Non.
Donc, c'est on s'est dit, on va faire des véhicules électriques.
Bon, j'ai l'impression que les gens de Tesla ont été frustré par l'arrivée de la Porsche Taycan Turbo S.
Ça se peut-tu, tu penses?
Et là, c'est une guerre de coq entre Porsche qui a répliqué à Tesla avec sa Taycan de très, très, très belle façon. Alors, Tesla qui a annoncé cette semaine l'arrivée d'une Model S qu'on appelle Plaid.
Oui, Plaid, qui est comme un motif carotté, hein, si je me trompe pas, si on traduit ça de l'anglais au français. J'ai pas trop pigé pourquoi on l'avait appelé comme ça. Mais tout ça pour dire qu'on nous promet 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, 3 moteurs électriques, 320 km/h en termes de vitesse de pointe, des données techniques qui n'ont absolument aucun sens. Oui, 1100 chevaux. Donc, à chaque ligne de la fiche technique, technique, c'est des données très, très, très impressionnantes, mais toujours avec la Model S qu'on connaît. Là,
depuis maintenant 8 ans, qui n'a pas vraiment changé. Et Tesla n'a pas l'air d'une entreprise qui va redessiner ses voitures, parce qu'une deuxième génération d'un même modèle chez Tesla qui est arrivée chez nous en 2011, ça n'existe pas encore.
Donc c'est quand même assez
particulier. Mais ça sera intéressant de voir quelque part sur YouTube une course d'accélération entre une Taycan Turbo S et cette Tesla. C'est sûr que ça va arriver.
Absolument.
Alors, YouTuber ou amateur de YouTube, je devrais dire, ben soyez à l'affût. Il y a sûrement quelqu'un qui va mettre la main là-dessus pour prouver que l'Amérique est encore gagnant.
Voilà. Et que l'Amérique est maître de la course d'accélération.
C'est ça.
Jusqu'à temps que Porsche arrive avec une Taycan Turbo. On va juste rajouter des turbos.
C'est ça. Taille qu'en faire.
Tant qu'à faire, voilà.
C'est ça. Bon, OK. Trêve de jeu de mots mauvais. On va passer aux essais de la semaine.
Oui.
Jetta GLE que tu as roulé cette semaine.
Oui, Jetta GLE que j'avais conduite à son lancement, qui était à la Tail of the Dragon au Tennessee, qui est une route là, très, très, très particulière avec une quantité presque infinie de virages.
Une route avec laquelle ça prend des gravoles.
Ça prend des gravoles pour le passager.
Même
pour le conducteur, ça peut donner certains maux. Mais là, de la conduire, c'est ça. Au Québec, dans un environnement un petit peu plus normal, je te dirais que ça faisait pas de mal. C'est une voiture que j'ai appréciée, je te le confirme. Même si c'est une sportive, en fin de compte, c'est une très bonne routière. J'ai fait presque 1200 km pendant ma semaine avec cette voiture-là. Une consommation de moins de 7 litres, et je l'ai conduit.
De moins de 7 litres. Ben là, tu as fait de l'autoroute.
J'ai fait de l'autoroute, mais pas non plus sur le Cruze à 105.
Est-ce que le turbo a sauté?
Non, le turbo...
Est-ce que tu as eu un problème de Westgate?
J'ai pas eu de problème de Westgate, mais la voiture n'avait que quelques milliers de kilomètres. Je t'avoue, la voiture était équipée de la boîte là, DSG à double embrayage, 7 rapports. On sait que les boîtes automatiques chez Vaux, notamment celle du Tiguan, c'est vraiment pas une réussite. Mais là, dans la GLE, franchement, on oublie presque l'idée de conduire une boîte manuelle. Et je suis moi-même un puriste de la boîte manuelle. Pour que je dise ça, faut que la boîte soit excellente.
Mais elle va bien, la boîte manuelle, dans
le
GLE.
Elle va très, très, très bien. Quand on la met en mode sport, c'est pas trop agressif.
Je parle de la manuelle. Même la manuelle est très agréable.
Oui, la boîte manuelle est très agréable, mais la boîte DSG est juste bien peaufinée et elle n'est pas hésitante. Là, comme
le seul truc qui m'agace, c'est le délai au moment de partir d'un arrêt, par exemple.
Il y a un
délai que tu ne retrouves pas avec une boîte manuelle. Alors, on peut penser que c'est dû au potentiomètre de pédale, mais c'est pas ça. Oui, il y a peut-être un petit délai pour ça, mais c'est notamment causé par la transmission. Il y a un délai de réponse à l'accélération qui est avec cette transmission-là. Et malheureusement, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout chez Vaux, Audi, Porsche.
C'est malheureux, effectivement.
Parce que même dans une Panamera, c'est agaçant.
Et c'est agaçant, voilà. Et moi qui demeure dans un
quartier où on fait 76 stops avant de se rendre à domicile.
Il n'y a pas de lumière, par exemple, mais il y a beaucoup de stops.
Donc, il y a même des stops au rond-point. Ça, il faut quand même le faire. Il y a un rond-point et on a réussi à mettre des stops à un rond-point.
Mais dans la culture de l'Amérique du Nord, le rond-point est totalement incompris. Donc, je pense que c'est ça. Il faut rajouter des barrières. Mais tout ça pour dire que la boîte DSG, à l'exception de ce délai à partir de l'arrêt, finalement, elle se débrouille très, très bien. En mode sport, c'est ça. C'est très convivial. On n'est vraiment pas on peut rouler, finalement, au quotidien en mode sport sans avoir l'impression que de brasser toute l'auto. Un coffre qui est énorme, de la place à l'arrière. Franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à cette voiture-là. Et j'ai relu mon essai, justement, quand je l'avais conduite à son lancement, et je lui reprochais...
C'est bien de se relire, ça.
Oui, des fois, ça m'arrive. Et je lui reprochais, entre autres, d'être peut-être un peu trop discrète, et j'ai rédigé cette semaine un mini comparo, là, sans prétention aucune, avec la voiture que je possède, qui était la version haut de gamme et performante de la Jetta dans les années 90, donc une GLX VR6, une proposition qui était totalement différente de l'actuelle, on s'entend, mais... on retrouve ce côté discret-là. On retrouve ce côté, je veux pas nécessairement que le voisin sache que j'ai une Jetta qui coûte cher. On est vraiment dans la sobriété. Et ça, ben oui, OK. On le conserve encore. On le conserve, mais j'ai pas le choix d'admettre que je finis par m'y habituer et que ça me déplaît pas du tout, ce côté-là, un peu sleeper.
Ah, moi, j'adore ça et c'est une voiture que j'ai toujours aimée pour ça. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est drôle parce que la Jetta, de façon générale, du côté de l'Europe, qui a été vendue sous différents noms là-bas, là, la tienne, c'était la Vento, par exemple, à l'époque. Bon, mais la Jetta, en Europe, c'est considéré comme une voiture de mononcle. Oui. Il y a peu de gens qui achètent ça. Une voiture tricorps d'abord ou une berline, ça n'existe à peu près pas. Les gens n'achètent que des Golf et souvent des familiales. Mm-hmm. Alors, la Jetta, qui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est même plus vendue là-bas, ça connaît pas de succès du côté de l'Europe, alors que chez nous, en Amérique du Nord, ben, la Jetta a surpassé de beaucoup les ventes de la Golf. Un peu moins vrai au Canada, mais aux États-Unis, c'était du 20 pour 1, là.
Oui, et c'est le modèle vraiment d'entrée de gamme là, au sein de la famille Volkswagen, la Jetta.
Donc, pour donner une idée aux gens, il s'est toujours vendu plus de GTI que de Golf aux États-Unis depuis le milieu des années 90.
C'est fascinant quand
même. Donc, c'est quelque chose, là.
Mais le Québec a toujours été une terre très prospère pour Volkswagen. Donc, le paysage automobile est un peu différent, finalement, et non représentatif du reste.
Mais malheureusement, c'est en train de se gâter avec un festival d'Atlas et de Tiguan
D'Atlas coupé, d'Atlas ci, d'Atlas ça. De ton côté, t'as conduit... oui, c'est ça. Je pense que tu peux continuer de ronfler, là, parce qu'il va être question de la Nissan Leaf.
Mais on va en amener d'autres VUS chez Volkswagen.
Je suis pas inquiet.
Nissan Leaf, j'ai roulé cette semaine la Nissan Leaf Plus. Une Nissan Leaf de 54 000 $.
Je veux même pas le savoir.
C'est exagéré. Attends un petit peu, là.
C'est exagéré.
C'est quelque chose. J'ai fait 300 quelques kilomètres avec la voiture, même plus que ça. J'ai dépassé les 400. Puis je me suis pas gêné. On voit souvent...
T'as pas conduit avec un œuf sous la pédale droite.
Là. On voit souvent ça, des gens qui ont des voitures électriques, puis là, ça embarque sur l'autoroute. Là. Puis c'est à peine si ça met pas les feux de détresse là, pour rouler à 84 km/h collé à l'arrière d'un camion de transport pour prendre l'aérodynamisme, pour pas être victime de la pression de l'air. Fait que... Moi, là, j'ai dit, OK, je vais la rouler comme je roulerais une voiture. Fait que je suis embarqué sur l'autoroute, j'ai roulé 118, j'ai mis le régulateur de vitesse, et là, j'ai découvert le système ProPilot Assist de laquelle elle était équipée. Fonctionne quand même assez bien.
Okay.
Ça, faut que je le dise. C'est un système qui est à point. J'ai pas trouvé que c'était trop intrusif. J'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. Alors là-dessus, chapeau. Mais à 54 000 piastres, là, avec une voiture qui a un volant qui est non télescopique, avec un écran de vieille génération, cette voiture-là a vieilli très rapidement.
Ouais.
Et pour faire de la longue route, je peux te dire que les sièges... Tu sais, on
critiquait les sièges de la Bolt.
Oui,
hein,
mais la Leaf, c'est pas bien ben mieux. C'est, je veux dire, je ne les aime pas pour les mêmes raisons que la Bolt, parce que la Bolt, c'est le manque de support, le manque de coussinage qui est flagrant. Dans ce cas-là, c'est la forme du siège, vraiment, l'assise qui est très courte, le dossier qui est galbé, mais beaucoup trop. Alors moi, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant pour de la longue route, mais le prix n'a pas de sens. Puis là, bien évidemment, c'est que Nissan a complètement changé sa gamme de Leaf, si bien qu'aujourd'hui, il existe une version SV de la Leaf avec une batterie de 40 kW. Et sinon, bien, vous avez une S, une SV et une SL comme celle que j'avais, avec la batterie de 62 kW, qui, sur papier, offre 363 km d'autonomie.
Ouais.
Mais attention, moi, sur l'autoroute, à 118 km/h, oublie ça, là, ce genre de kilométrage-là. Tu fais même pas 300 en été, sans climatisation. Alors, j'ai été un peu déçu du rendement énergétique aussi, parce que
que les gens vont rouler à 105 sur le cruise, là.
Ben, en fait, c'est ce que bien des gens qui achètent ce genre de voiture-là vont faire.
Mais soyons réalistes.
Ouais, c'est ça. Mais c'est une voiture... En fait, honnêtement, la Leaf, pour moi, le fait d'acheter une version avec la batterie de 40 kW pour une voiture qu'on utiliserait en périphérie de l'île de Montréal et avec laquelle on circule, mais sans faire de trop longues distances, ça peut être efficace. Mais d'aller payer une telle somme pour une Nissan Leaf, ben là, je décroche. Comprenez que je m'en vais chercher un Kona, une Soul ou une Bolt bien avant ça. D'abord parce que la technologie de recharge de ce véhicule-là est pas la même que ce qu'on retrouve ailleurs. Il n'y a pas de système de thermorégulation de la batterie. Donc,
ça, au Québec, ça fait une grosse différence.
Par temps chaud, par temps froid, bien, l'autonomie est réduite de beaucoup. Donc, ça impacte. Et si vous rechargez à deux ou trois reprises rapidement, bien, la batterie gagne en température et se met en mode protection, ce qui fait que pour recharger votre voiture, au lieu que ça prenne 3 heures, bien, ça va peut-être en prendre 6. Alors là, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Fait que, non, la Leaf, ce n'est pas l'électrique que j'achèterais. Ça a été une bonne investigatrice du segment, mais je pense que même si la voiture n'est pas si vieille que ça, elle n'a pas été, elle a été lancée il y a seulement que quelques années sous cette deuxième génération, mais on est déjà dû pour une refonte.
Parce que le marché autour d'elle a évolué très rapidement.
Il y a des trucs ergonomiques qui sont problématiques. J'ai de la misère, moi, à me trouver une position de conduite là-dedans. Il n'y a pas de volant télescopique. Le siège n'est pas super confortable. L'accoudoir central ne sert à pas grand-chose. Tu ne peux pas vraiment t'en servir parce qu'il est trop bas. Tu sais, il va falloir améliorer cette formule-là parce qu'au-delà de la technologie électrique...
C'était cute au début, là.
Non, mais au-delà de la technologie électrique, qui, Nissan l'a fait, c'est correct. Ouais. Mais là, il faut se mettre à jour. Il faut avoir un système plus efficace que ce qu'on a là. Puis, il faut surtout offrir un véhicule qui est plus convaincant nonobstant la technologie électrique qu'on y retrouve. Alors, c'est une petite déception pour moi, la Nissan Leaf, bien que j'ai quand même aimé ne pas mettre une goutte d'essence.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Cette semaine, Antoine, a été une très grande semaine pour toute l'équipe du Guide de l'Auto parce que oui, c'était la parution du livre dans lequel il y a un dossier spécial sur la Manic et un documentaire qui l'accompagne sur Club Illico. Et pour en parler, ben, on reçoit la personne en charge de tout ça, Julien Amado.
Oui, parce que c'est quoi ça, la Manic, Julien?
Salut Germain, salut Antoine.
Salut.
La Manic, c'est la seule voiture québécoise qui a été produite en série, fait que ça mérite quand même d'être souligné. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, finalement. Donc, c'est ça, c'est une
petite quand
auto,
tu dis que la voiture a été produite en série, c'est pas en Syrie, c'est en série.
Oui, tout à fait.
Il faut quand même le souligner. Elle a été produite au Québec.
Absolument, au Québec, en série.
C'est ça.
Mais en petite série, c'est pour ça probablement que beaucoup de gens ne se rappellent pas de cette voiture-là ou ont tout simplement là, un vague souvenir.
Oh oui, c'est sûr, parce que la voiture, elle a été présentée en avril 69, puis on a arrêté de la produire en mai 71. Donc ça s'est quand même vraiment étalé sur une très petite période. Donc c'est sûr que le monde qui connaissait ça à l'époque, puis qui était en âge d'aller au salon de l'auto et de voir la voiture, ben s'en rappelle forcément. Mais c'est sûr que pour la plus jeune génération, c'est plus difficile de s'en rappeler.
Puis bon, par les éditions passées, là, dans les dernières années, c'était presque une tradition de produire un dossier spécial sur un modèle très emblématique. On a eu la Mustang, par exemple, on a eu la Corvette, Et là, qu'est-ce qui t'a donné l'idée finalement de prendre une voiture qui était finalement passée à l'oubli?
Ben, en fait, je suis parti d'un principe vraiment simple. Je me suis dit, c'est amusant, il y a 50 ans, jour pour jour, je pouvais aller chez le concessionnaire et m'acheter une voiture québécoise, ce que je peux évidemment plus faire aujourd'hui. Et j'ai eu envie de savoir ce qui était devenu cette voiture, pourquoi est-ce que ça s'était arrêté et pourquoi on pouvait pas acheter une voiture québécoise ici au Québec. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à me pencher sur la Manic. Puis plus j'avançais, plus je trouvais ça intéressant et l'aventure assez incroyable. Donc ben, plus j'avais le goût de continuer. Puis on a abouti finalement à un gros dossier dans le livre et un documentaire de 52 minutes. Fait qu'il y avait beaucoup de choses à dire.
Puis j'imagine que, bon, tu l'as mentionné, ça fait 50 ans, considérant que son fondateur, M. Abou, Jacques Abou, est mort, j'imagine que ça n'a pas été nécessairement facile d'aller retracer des acteurs de la première heure.
Non, ça n'a pas forcément été facile, d'autant plus...
Je ne veux pas non plus gâcher de je veux pas être divulgacheur, mais je pense pas que c'était un punch pour personne que ce monsieur-là soit aujourd'hui décédé, là.
Non, c'est rendu public depuis longtemps que Monsieur Abou est décédé. Mais disons que oui, c'est sûr que ça n'a pas été évident, surtout que sans leur faire aucune offense, c'est des personnes qui ont entre 70 et 80 ans aujourd'hui, fait qu'ils n'ont pas tout Facebook. Tu vas pas juste leur envoyer un petit message sur Messenger, là, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'était plus du téléphone. Puis, pour te donner une idée, Serge Soumy, qui est le designer de la Manic GT, vit en France maintenant. Il a fallu que j'envoie une lettre parce que j'avais pas de contact autre que, qu'une adresse en France.
Tu parles d'une lettre à la poste, là?
À la poste. J'ai posté une lettre à Montréal qui s'est rendue jusqu'au sud de la France.
Mon Dieu! On peut plus, puis on était dans le télégramme.
Presque.
Ouais, ben, on aurait pu, mais c'est ça. Fait que ça donne un peu une idée, mais en tout cas, c'était le fun de les retrouver, puis ils étaient tous très, très, très heureux d'en parler, donc ça donne vraiment un bon documentaire.
Puis encore là, l'idée n'est pas de divulguer de punch du documentaire, mais peut-être rapidement, peux-tu expliquer pourquoi le parcours de cette voiture-là a été si court, finalement? Parce que, bon, c'est ça, tu l'as dit, ça a commencé en 69, puis en 71, ben, tout était terminé. Comment ça, ça a été si court?
Ben, en fait, il y a plusieurs problèmes qu'on évoque dans le documentaire, mais le principal, c'est vraiment la livraison des pièces de Renault. Parce que la voiture était sur une base Renault, moteur, plancher, suspension, et quelques autres petites pièces aussi de l'intérieur, ou des phares, des choses comme ça. Puis, la voiture, en fait, dépendait beaucoup du constructeur. Donc, la difficulté que eux avaient, c'est que, après mai 68 en France, les grandes grèves de France en 68, il y a eu beaucoup de grèves à la régie Renault en France. Donc, des problèmes de production de pièces. Et Manic a souffert pas mal de ce problème-là, et il pouvait avoir des retards vraiment importants. Moi, par exemple, j'ai consulté une lettre chez Pierre Abou, le fils de Jacques Abou, où on parle de 5 mois de retard pour des livraisons de pièces. Donc toi, quand t'as ta voiture, elle attend dans l'usine, elle a pas de pièces, tu peux pas la vendre. Donc c'est sûr que quand t'es un tout petit joueur comme Manic, c'est très compliqué de survivre, parce que ton cash flow rentre plus, tu vends pas tes autos. Donc c'est principalement ça qui a causé leur perte. Mais il y a eu effectivement d'autres affaires aussi qu'on souligne. Puis c'est un peu un tout aussi, parce que c'est jamais facile quand tu es petit. C'est d'autant plus au Québec, tu sais, par rapport à Détroit, t'as les trois gros Américains qui sont juste à côté. C'est sûr que ça fait une grosse ombre aussi, là.
T'es parti, évidemment, pour les besoins de ce reportage-là et pour le documentaire qu'on peut retrouver sur Club Illico. T'es parti à l'aventure pour aller rencontrer différents propriétaires et différents passionnés de la Manic. Comment est-ce que tu as réussi à retracer tous ces gens-là? Parce que je comprends en même temps que les gens qui sont propriétaires de ces voitures-là se connaissent tous un peu, mais de là à mettre la main sur plusieurs voitures et de réussir à faire parler plusieurs passionnés, c'est autre chose.
C'est vrai, mais c'est tous une petite équipe assez tissée, serrée quand même, puis ils se connaissent tous bien. Et c'est vrai que du moment où tu trouves une personne, ils te disent, tu devrais parler à telle personne, tu devrais parler à telle autre personne, lui en a une, lui en a trois. Donc ça va quand même assez vite. Puis c'est vrai que ça, paradoxalement, je m'attendais à avoir plus de difficultés, puis au final, ça a plutôt bien été. En fait, le monde était aussi vraiment, tu sais, comme vraiment content qu'on parle de la voiture, puis ils m'ont même laissé le volant, tu sais, il y a une Manic orange qu'on voit dans le documentaire. Tu sais, le propriétaire m'a laissé le volant. Faut quand même avoir confiance quand même. Tu sais, c'était vraiment gentil de sa part. C'est pas tout le monde qui prêterait son auto. Surtout que c'est un véhicule, tu sais, qui est rare aujourd'hui, là. Tu peux pas en retrouver un demain.
Donc, non, tu peux pas aller chez le concessionnaire pour la faire réparer. C'est un peu difficile.
D'ailleurs, je suis curieux de connaître ton point de vue parce que, bon, t'en as conduit une, t'en as vu plusieurs. J'ai eu la chance aussi d'en voir plusieurs de près. Et à chaque fois, ce qui me frappait, c'était le côté artisanal de la voiture. Oui, je me replace à l'époque. J'ai vu des voitures américaines, européennes de la fin des années 60, du début des années 70. La qualité d'assemblage, c'était pas leur principale qualité, mais ça me paraissait encore une coche plus faible pour la Manic. Est-ce que ça peut être un élément qui lui a nui, ça?
Ouais, je sais. C'est dur de dire si à l'époque ça lui a nui. Jacques Duval l'avait souligné dans le guide de l'auto en 70. Lui, il dit justement que la finition était vraiment moins bonne que les américaines. Puis il faut reconnaître que c'est vrai.
Tu sais, la finition, la position de conduite, c'était atroce, là.
Puis une finition moins bonne que celle d'une voiture américaine des années 70.
Faut le faire, là.
On parle d'une finition assez sommaire, là.
Ben, tu sais, comparativement à une Beetle de la même époque, il y a un monde, là.
Oui, absolument.
C'est vrai qu'une Beetle est plus belle à l'intérieur, ça, c'est vrai.
C'est pas peu dire, là.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Après, moi, celles que j'ai vues aussi ont été restaurées pour la plupart. Ouais. Donc, t'as des matériaux qui sont plus beaux. Je pense à celle, par exemple, de Raymond Caillé, le fondateur de la Nickel Manic. Il a une voiture qui est superbe, mais elle était toute refaite au complet. C'est difficile de comparer avec ce qu'elle était à l'époque. Cela dit, moi, j'ai vu aussi des grosses différences. J'en ai quand même vu, trois différentes. Vraiment, vraiment finales, montées, là. Celle de Serge Soumy en France, par exemple, c'est un des premiers prototypes que lui a. Là, la finition est vraiment légère. Là, c'est vraiment très, très léger. Mais par contre, j'en ai vu une autre qui date de 71. Un peu avant la fermeture, c'était beaucoup mieux. Les panneaux de carrosserie sont mieux, l'intérieur est mieux fini, la voiture aussi. Donc, il y avait quand même une évolution constante. Puis je pense que eux sont partis vraiment de rien. Donc, je pense que la progression se faisait petit à petit au fur et à mesure qu'ils amélioraient leur technique pour le filtre de verre, pour la finition, etc.
Évidemment, là, en écoutant le reportage, on a appris que cette voiture-là, qui était quand même assez audacieuse, toute sauf conservatrice, était aussi la passion d'un conservateur qu'on connaît très bien. Alors, j'ai appris comme ça que Gérald Deltel est un maniaque de ces voitures-là. D'où lui vient cette passion-là?
Mais lui, au départ, c'est drôle parce qu'il préférait plutôt les décapotables. C'est ça qu'il m'a dit. Lui, il était vraiment fan de décapotables. D'ailleurs, il roule avec une EOS au quotidien. Mais il m'a dit que cette voiture-là, pour lui, représentait quelque chose de fort parce que c'est une voiture qui vient d'ici. Tu sais. Puis il en a quand même acheté 3 au total, donc c'est quand même beaucoup. Notamment une qu'il a donnée au cégep de Saint-Jérôme pour qu'elle soit transformée en voiture électrique parce qu'elle était pas mal modifiée. Il y avait un moteur de Beetle à l'arrière. C'était une voiture qui était déjà un peu loin de l'origine.
Ouais.
Fait que c'était plus compliqué de la restaurer telle que lui la voulait. Fait qu'il l'a donnée au cégep de Saint-Jérôme. En revanche, il en a possédé 2 autres, dont une qui est en restauration, là, qui était une première main. En plus, premier propriétaire, ça, c'est incroyable. Puis elle venait de Mont-Laurier, sa voiture, et donc il l'a redescendue dans la région de Québec. Puis là, elle est en restauration, et normalement, elle devrait rouler, il m'a dit, l'année prochaine. L'été prochain, elle devrait être toute refaite, puis pouvoir rouler.
À l'émission ici du Guide de l'Auto, on a déjà abordé le sujet de la restauration, justement, dans l'univers des muscle cars, puis ce qu'on nous disait, c'est que ça va très bien quand les pièces de reproduction existent, parce qu'on sort le catalogue, puis on commande les pièces une après l'autre. Dans le cas d'une Manic, comment on restaure ça?
La Manic, justement, le vrai défaut qu'elle a, et le fils de Jacques Abou, Pierre, me l'a dit très justement, c'est qu'elle est basée sur la Renault 8. Le problème, c'est qu'en Europe, les Renault 8, et en particulier les Gordini, il y a vraiment un énorme engouement par rapport à tout ça. Donc, c'est des voitures qu'on va pas trop sonner. Là. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Là. Donc, tu vas pas acheter une R8 Gordini à 30 000 euros, ce qui fait 50 000 dollars, pour la couper en ferré de Manic. Donc, c'est compliqué. Puis les R8 R10 de l'époque roulaient rien qu'à les regarder, les maniques évidemment de la même façon. Donc c'est compliqué aussi, même ici, tu sais, tu me dis à la rigueur, je vais trouver une Renault 8, une Renault 10, mais au Québec elles ont complètement disparu. Peut-être à la rigueur en Californie pour ceux qu'on aurait acheté, mais encore là, ça va être rare. Et puis dans quel état elle va être. Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver des pièces. Les moteurs de Renault 8, ça va pas être trop difficile parce qu'en Europe il y a quand même pas mal de reproductions de pièces.
Puis ils l'ont utilisé à plusieurs, ils l'ont utilisé un peu partout, oui. Ce moteur-là, ouais.
Oui, et puis c'est des moteurs qui ont connu beaucoup de variantes. Donc au pire, si tu n'as pas exactement la bonne variante, tu vas quand même pouvoir trouver quelque chose de très approchant. Suspension, il n'y aura pas de problème, tout ça va être correct. Mais c'est vrai que même des pièces qui étaient fabriquées par Manic, par exemple, comme les sièges, qui étaient en fibre de verre, qui étaient fixes en plus, on ne pouvait pas régler le dossier, mais c'est des sièges qui n'existent plus, qui ne sont plus produits. Même chose pour le tableau de bord qui était fait par Manic. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, n'existent plus. Donc c'est vrai que soit on arrive peut-être à trouver une épave ou une coquille qui garde encore des pièces.
Ou on va dans de la fabrication artisanale.
Voilà.
Absolument. Ou les refaire, effectivement. C'est peut-être le meilleur moyen, mais c'est pas évident. Je sais que pour les vitres latérales, par exemple, c'est ce que font les gens. C'est des vitres qui étaient faites custom à l'époque, mais elles sont bien sûr plus produites, mais c'est Manic qui les faisait. Et comme elles sont strictement droites, si tu les coupes à la bonne taille, ça peut être fait avec du verre régulier, mettons.
OK.
Avec un peu de calfeutrage, là, c'est parfait.
Ouais, c'est ça. Un peu de mono.
ça fait un beau résultat.
Évidemment, fait qu'on va inviter les gens à aller regarder ce reportage-là sur Club Illico. C'est pas ta seule réalisation dans le Guide de l'Auto cette année, Julien. T'as aussi rédigé un intéressant reportage sur la réunion de 5 voitures exceptionnelles. Mythique, oui. cinq des Ferrari les plus mythiques, en fait.
Oui, ces voitures-là, si je t'avais dit, je suis allé à Maranello, puis j'ai réussi à réunir les 5 hypercars de Ferrari, tu m'aurais dit, oui, c'est correct, là, ça m'étonne pas vraiment. Mais ce que moi, j'ai trouvé incroyable, c'est qu'elles sont dans le Grand Montréal, et qu'elles appartiennent à la même personne. Ouais. Ça, c'est quand même assez fou.
Et que cette personne-là conduit ces voitures.
Oui, et ça, c'est franchement intéressant parce que oui, ce sont des bijoux, ce sont des voitures qui valent plusieurs millions chacun, et cette personne-là en profite quand même. Et ça, ben moi, j'ai pas le choix de l'ouvrir.
Bon, et on va tout de suite briser le silence. C'est Luc Poirier qu'on avait reçu ici
d'ailleurs. Mais franchement, de le voir rouler ces voitures, pour moi, ça a pas de prix là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Il y a un reportage qui a été réalisé avec lui, avec ses 5 Ferrari. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a une capsule vidéo. Et dans l'arrière-plan, on voit que c'est pas ses seules voitures non plus.
Non, c'est ça. Alors, toi, tu as visité son garage, Julien. J'imagine que l'ambiance à l'intérieur de ces murs-là doit être assez cool. Merci.
Oui, c'est incroyable ce garage-là. Pour vrai, je pense que c'est le garage de... C'est le rêve de pas mal d'amateurs d'automobiles. Tu dis, oh, celle-ci est cool, celle-ci est encore plus cool, celle-là est incroyable. Dès que tu poses ton regard quelque part, c'est une auto hallucinante. Mais c'est vrai que le fait qu'il roule avec ses autos, moi, je trouve ça assez cool parce que, notamment la Enzo, puis la Ferrari, qui sont les plus faciles à conduire. On s'en rend compte que c'est une S40 au Québec, là. C'est un peu plus rough à conduire. Mais il n'a pas peur de leur mettre du kilométrage, puis il roule avec. Puis c'est pas si fréquent avec ces autos-là, c'est aussi beaucoup objet de spéculation. Donc je trouve ça à souligner. C'est intéressant que quelqu'un les ait achetées déjà toutes, mais roule avec en plus.
Et sinon, un guide de l'auto n'est pas un guide de l'auto sans match comparatif. Cette année, il y en a deux qu'on a réussi à réaliser malgré la situation actuelle. Peux-tu nous les décrire brièvement?
Oui, ben le premier, je pense que c'est un des véhicules que tout le monde attend au Québec. Là, c'est le RAV4 Prime qu'on est la vedette et qu'on a opposé au Escape PHEV et au Outlander PHEV. Donc ça, c'est sûr que c'est un match attendu. Là, puis on est vraiment très content de l'avoir dans le livre. Puis ben, je pense que c'est quelque chose que les gens vont vraiment être intéressés à voir. Et le deuxième, ben, c'est toi, Antoine, qui l'a réalisé en plus. Fait que tu vas pouvoir aussi nous en dire deux mots, puisque c'est 6 VUS
intermédiaires à trois rangées. Et à l'origine, avant que le COVID nous tombe sur la tête, ça devait être un méga match comparatif, Julien. Tu te souviens de 12 VUS. En fait, on prenait l'ensemble des VUS du marché. Ça allait inclure le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango.
Donc, c'était un intermédiaire. Il y avait 7 passagers. On voulait qu'il soit dans le match.
C'est ça. Et c'était pas un véhicule de luxe. On ne tombait pas dans le luxe.
Non,
là.
Voilà.
Alors, c'était un véhicule de grande série.
Et on là, finalement, dedans. Avec le printemps qu'on a eu, ben, c'était presque un miracle d'être capable d'en réunir 6 avec autant d'essayeurs, avec le photographe.
Ça a été du sport, d'autant plus que Volkswagen n'a pas produit officiellement de Atlas 2020. Le 2021 était pour sortir quelques semaines après. Donc, on nous a fourni un 2019, qui est la même chose. Là. On a seulement que changé quelques aspects esthétiques du véhicule. Mais ça n'a pas été évident de mettre la main sur ces 6 véhicules-là en période de confinement. Et il y a des constructeurs qui nous ont carrément dit « Oubliez ça, j'en ai pas. » Fallait se tourner vers des véhicules de concessionnaires, etc. Alors, c'était pas évident. Mais on a réussi à le faire. Et le Kia Telluride s'en est sorti grand vainqueur.
Vous pouvez acheter le livre quand même, là, même si on vous a donné le gagnant.
Mais il y a quand même eu des surprises parce qu'il y a des véhicules...
Franchement, je m'attendais à ce que, par exemple, un véhicule comme le Highlander se classe un peu plus haut dans le palmarès. Mais
comme on indique dans le reportage, c'est pas un mauvais achat. C'est juste que ce produit-là n'est pas très impressionnant sur le plan technique. Et je trouve qu'on a été un peu... On s'est assis sur ses lauriers pour le renouvellement d'un véhicule qui pourtant est très, très, très important au sein de la gamme Toyota. Alors, vous allez pouvoir découvrir ça. Sinon, Julien, terminons en mentionnant que j'imagine que toi qui as été maître d'œuvre du Guide de l'auto cette année pour paginer tout ça, vérifier tout ça, relire l'ensemble des textes, en période de COVID, c'est pas évident.
Non, il a fallu qu'on travaille à distance pas mal avec avec vous autres les auteurs, avec la production du livre, avec la mise en page du livre. C'est sûr que ça a impliqué de revoir les choses un petit peu différemment. Mais tu sais, je suis très très content du résultat final. Et puis tu sais, je pense qu'on a fait une belle job là. Puis le monde va pouvoir vraiment, tu sais, si tu cherches un véhicule, tu vas trouver beaucoup d'informations. Si tu veux triper sur des Ferrari, t'as aussi de quoi. Si tu magasines un VUS, t'as quand même deux gros essais comparatifs. Puis si tu veux savoir c'était quoi l'histoire de la Manique, ben tu peux aussi regarder un petit peu et replonger en arrière. Fait que, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets différents. Puis ça fera de la bonne lecture pour l'hiver qui s'en vient, puisque l'été est pas mal derrière nous. Donc au moins, ce sera l'occasion de lire 704 pages attentivement.
Ben Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne préparation du guide 2022.
Et on t'invite à lire toutes nos idées qu'on va t'envoyer sous peu et à gérer toute cette grosse batch de courriels-là que tu vas devoir te taper.
Ça sera avec grand plaisir.
OK, salut.
Merci Julien.
Bye-bye.
Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On a parlé déjà du guide de l'auto 2021 à cette émission. C'était tout un défi de réaliser ce livre-là en raison, évidemment, du contexte actuel. Et tu voulais revenir sur les petits pépins et les embûches qu'on a pu frapper en chemin.
Bien, on vient d'en parler avec Julien. Ça n'a pas été évident d'aller chercher l'information cette année. Mais on parlait de Kia qui nous a pas remis l'information du Sorento alors qu'on la connaissait chez le constructeur. A fallu gratter 2, 3, 4 fois plus pour aller chercher l'information pour pouvoir écrire un livre cette année parce que les constructeurs automobiles étaient en mode improvisation dans bien des cas. Moi, je pense à Honda.
Et pour bien des constructeurs automobiles aussi, la communication est très, très, très opaque. On contrôle l'information et on la diffuse très peu.
Oui, et on est habitué de contrôler l'information d'une certaine façon. Mais là, de la contrôler dans une zone où on est moins confortable, ça crée des situations qui sont vraiment inefficaces. Des présentations sur Zoom, là, où on nous présente, par exemple, le nouveau Nissan Rogue, je suis désolé, quand tu viens pour poser une question, on te répond la cassette habituelle.
Tout à fait. Il n'y a pas de discussion entre deux humains.
Alors, à toi, en tant que journaliste, d'ouvrir ton champ d'horizon et d'aller chercher de l'information ailleurs que chez le constructeur, parce qu'on t'en donne pas d'informations.
Ouais.
Et Honda, moi, j'ai appris des nouvelles, je l'avais annoncé ici, d'ailleurs, le retrait de la Honda Fit à l'émission. C'est pas Honda qui nous l'a annoncé.
Même chose avec la Golf aussi. C'est pas Volkswagen qui nous envoyait un communiqué pour nous dire que la Golf s'était terminée.
Bon, c'est ça. Donc... Alors, on apprend de par les concessionnaires, de par les gens qu'on connaît dans le réseau, que les véhicules vont disparaître ou qu'il va y avoir des changements. Mais les constructeurs se sont fait cette année particulièrement avares de commentaires, d'informations, au point où on s'est presque fâché à certains moments. Délai avec Honda comme constructeur, c'est pas évident. On n'a pas grand monde à qui parler pour avoir des informations à temps. Et lorsque tu poses une question à des gens qui sont à Toronto et qui ne comprennent pas l'importance d'un guide de l'auto, c'est pas toujours évident. Et on se tue à dire aux gens, écoutez, on accepte, nous, de signer des embargos de publication, même si tu me donnes l'information 2 mois à l'avance, 2 mois avant qu'elle sorte. Donne-la-moi. Moi, je vais te signer un embargo comme quoi je suis capable de conserver cette information-là jusqu'à la date de sortie du livre. Mais
et il y a des manufacturiers qui, à l'inverse, le font très bien.
Ah, bien, absolument. Absolument. Alors, tu sais, il faut comprendre qu'aller chercher l'information cette année, ça a été le plus gros défi. C'est pas d'avoir manqué la possibilité de conduire telle version AMG d'une Mercedes qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu écrire le texte qu'on voulait. Il y a ça aussi. Mais d'aller chercher de l'information, de pouvoir discuter avec les gens de l'industrie, c'est ce qui a été le plus difficile. Et je pense que d'accoucher du livre duquel on a accouché cette année, malgré cette lacune flagrante qu'on a, avec laquelle on a composé, bien, ça a été quelque chose de quand même assez phénoménal. Il y a des constructeurs qui nous ont vraiment, vraiment aidés là-dedans. Je pense à Toyota, on peut le souligner.
Oui, on a carrément eu un document avec les nouveautés pour chaque modèle, avec un embargo à respecter.
Voilà.
C'est pas chinois, c'est pas compliqué.
C'est pas chinois, mais...
Mais chez Toyota, on reconnaît le guide de l'auto, on connaît son importance au Québec, et Et c'est un travail de collaboration, finalement, parce que le constructeur est aussi gagnant que nous dans cette histoire-là. On reprend le bête exemple du Sorento. Ben, Kia va écoper du fait que pendant toute la durée de vie du livre 2021, on va avoir des vieilles informations sur le Sorento.
On n'aura pas d'informations à peu près.
C'est ça.
C'est ça. Fait que ça, c'est
donc
un peu dommage.
Donc, le constructeur ne gagne rien.
Puis, il faut ajouter aussi une chose, c'est que contrairement aux années passées, cette année, on souffre du fait que les Américains ont l'avantage de pouvoir tout essayer avant nous. Parce que, évidemment, bon, je pense aux
gars. Au Bronco, hein, au Bronco Sport. C'est un très, très bel exemple.
Bronco Sport, les Américains l'ont tous conduit. Ça fait déjà plusieurs semaines. Nous, on nous a invités à Oakville pour aller le voir statiquement. Mais on ne pourra pas le conduire probablement avant qu'il débarque chez les concessionnaires. Parce que Ford ne veut pas traverser de véhicule de ce côté-ci de la frontière. Ça a été la même chose pour GM. On a finalement réussi à prendre des véhicules des États-Unis et de les traverser au Canada pour pouvoir nous les faire conduire. GMC Tahoe, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe. Mais ça a été plus ardu. Les Américains les ont eu avant nous.
Puis encore alors, là, c'est ça, c'est arrivé.
Alors
là,
que d'habitude, on peut se défendre à ce niveau-là. Il y a certains constructeurs qui m'empêchent même de diffuser des informations jusqu'à ce que les Américains aient eu droit de publier. Donc, on donne l'avance cette année aux Américains et vous, les Canadiens, vous aurez le droit plus tard. Pour ça, j'ai des cartes dans ma manche. On va quand même pouvoir avoir quelques scoops pour vous parce que c'est quand même le plaisir de notre métier également. Sur ce, Germain, bonne semaine.
Bonne semaine à toi. La semaine prochaine,
on va parler de la Cura TLX que je conduis présentement et que tu vas conduire dès la semaine prochaine. Oui. Alors, on fera un tour de table.
On partagera cette nouvelle
berline qui est quand même pas piquée des verres. C'est une belle machine à conduire.
Bonne semaine à tous.
Salut.